L'émission Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, votre quotidienne en direct à midi et aussi en rediffusion le soir même à 18h et aussi pour l'éternité sur internet sur radioévasion.net. La Bretagne, à l'instar de nombreuses régions françaises, possède sa propre identité culturelle. Ce n'est un secret pour personne. Nous avons tous une belle représentation du phare breton, de la coiffe bigouden et bien entendu du fest-noz. Il existe aussi bien d'autres domaines d'expression de l'art breton traditionnel. Ce que l'on connaît moins, c'est son histoire et surtout un virage qu'il a pris grâce, ou à cause, c'est selon les goûts, d'une bande d'artistes motivés à en découdre avec, je cite, les « bignouseries d'avant-guerre ». Pour cela, ils ont créé un mouvement qui fête son centenaire cette année, le Cesbreur. Notre invité du LEM aujourd'hui est Pascal Aumasson. Bonjour Pascal et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Alors vous êtes conservateur du patrimoine et historien de l'art. Vous avez travaillé dans de nombreux musées bretons d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur le mouvement des Cesbreurs, notamment un ouvrage qui s'intitule « Cesbreurs pour un art moderne en Bretagne », paru et réédité d'ailleurs pour l'occasion de ce centenaire aux éditions Locus Solus. On en profite pour remercier Régis Lemercier, qui est chargé de communication à Locus Solus, pour nous avoir fourni cet ouvrage. Alors, pour expliquer pourquoi et ce qu'a apporté ce mouvement, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de l'art breton avant la Première Guerre mondiale ?
Avant la Première Guerre mondiale, l'art breton était porté par deux courants qui peuvent paraître antagonistes. Un courant très novateur, qui était incarné en particulier par l'école de Pont-Aven. Et puis, dans le domaine des arts décoratifs, c'est-à-dire dans le domaine de l'ameublement, dans le domaine du décor mural, dans le domaine de la faïence, par un certain conservatisme qui se traduisait par des motifs décoratifs qui se répétaient d'une production à l'autre et qui, par ailleurs, produisaient dans les intérieurs bretons, urbains ou ruraux, des meubles surchargés de décors avec des personnages en costume breton aux angles ou dans des niches. C'était ce fameux style qu'on appelle le style Henri II, en fait un style de fabrication de meubles historiques avec sur lequel était appliquée quantité de décors que beaucoup ont trouvé totalement surchargés et finalement assez peu représentatifs du caractère régional de la création.
Alors ils étaient, justement, ça représentait quoi, tous ces décors? Ça servait à quoi?
Eh bien, c'était une sorte d'éloge à la grande tradition bretonne du beau costume arboré avec fierté par les gens qui vivaient en Bretagne à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avec des manières de se vêtir qui étaient calqué sur la sculpture, à tel point que la plupart des meubles étaient occupés par quantité de petites sculptures de personnages portant des costumes bretons traditionnels. Des costumes bretons traditionnels que déjà la population bretonne, se séparait amplement au profit de tenues urbaines de caractère non régional. C'était donc une manière de faire un retour en arrière qui s'opposait en quelque sorte, par le visuel, aux pratiques populaires qui consistaient à s'habiller en campagne comme en ville d'une manière plus moderne.
On retrouvait aussi certainement des inspirations qui venaient de tout l'aspect celtique, de l'Irlande peut-être aussi.
Avant-guerre, très très peu. Avant-guerre, très très peu, même s'il y avait un courant de pensée idéologique et politique qui, en Bretagne, commençait à attirer l'attention sur l'intérêt des motifs celtiques. Cet intérêt, d'ailleurs, pour les motifs celtiques, était un intérêt d'archéologue. Ce n'était pas les motifs celtiques du début du XXe siècle et d'avant-guerre qui passionnaient les journalistes ou certains artistes. C'était des motifs empruntés à l'archéologie et à la situation telle qu'on pouvait l'imaginer sur le plan décoratif au Moyen-Âge.
D'accord, donc tout cet art breton est quand même très centralisé sur de l'artisanat, donc le mobilier, la faïencerie, le textile. Il y avait d'autres choses à l'époque, d'autres domaines.
Vous avez cité les principaux domaines. L'architecture, sans évidemment faire partie des arts décoratifs, était à une période charnière entre des constructions rurales tout à fait traditionnelles, sans beaucoup de style, et se dirigeant vers des formules architecturales plus stylées, plus identifiables.
Il y avait aussi tout un aspect religieux. Je pense à certains monuments qu'on peut trouver, les calvaires qu'on peut trouver peut-être aussi dans, un petit peu partout dans le Finistère, par exemple.
Le début du XXe siècle, en tout cas dans l'ouest de la Bretagne, a très peu accompagné de nouvelles constructions religieuses, alors qu'elles étaient très nombreuses en Haute-Bretagne et en particulier en Ille-et-Vilaine, où l'on n'hésitait pas à construire des nouveaux sanctuaires. Après avoir détruit les sanctuaires de la Renaissance ou de la période baroque, pour construire des églises à 300, 400 ou 500 places disponibles. Dans le Finistère, la situation est bien plus contrastée. Il est sûr qu'il y a un patrimoine religieux de la Renaissance et de la période baroque, mais aussi du Moyen-Âge, qui est très vivant, très respecté. Et il y a peu de constructions religieuses modernes pour les contrarier.
D'accord. Alors la Première Guerre mondiale explose et on entre donc dans l'entre-deux-guerres. Et c'est là que tout commence avec une femme qui s'appelle Jeanne Malivelle. Alors qui est Jeanne Malivelle ?
Il faut voir qu'au moment où Jeanne Malivelle se manifeste, la Bretagne est sonnée par la Première Guerre mondiale. D'abord parce que c'est une saignée humaine. Beaucoup d'hommes sont morts au combat. Ensuite, beaucoup d'hommes qui reviennent ont appris d'autres manières de vivre et de parler que celles qui étaient celles de leur village avant qu'ils ne soient mobilisés. Il y a donc une ouverture sur d'autres formes de pensée et d'autres manières de vivre. Et puis enfin, c'est une période de crise économique et la reconstruction du nord et de l'est de la France n'est pas sans conséquence sur le niveau de vie de la totalité de la population française. À cela s'ajoute en Bretagne un regret très fort qui concerne la langue bretonne. On a l'impression dans beaucoup de milieux que la langue bretonne commence à disparaître, en tout cas que les autorités n'en prennent pas soin et que il faut peut-être trouver des voies pour promouvoir une renaissance du parler breton dans les milieux ruraux et en milieu urbain également. Et c'est donc dans ce contexte d'une Bretagne épuisée et inquiète qu'une personne comme Jeanne Malivelle, une artiste native de Loudéac, avec des personnes qu'elle rencontre à Paris au cours de Breton, qui ont lieu à la Sorbonne le soir, en auditeur libre, comme René-Yves Creston ou Suzanne Creston, son épouse à partir de 1919, ou encore Georges Robin, un Nantais d'origine. Ces artistes-là se retrouvent au cours de Breton et sont amalgamés par leur goût pour la culture bretonne, qui s'exprime en tout cas pour le moment par leur intérêt très prononcé pour la langue. Et puis vient cette idée autour de Jeanne Malivelle qu'il serait peut-être bien que tous ses amis, qui se connaissent finalement encore assez peu et qui ne vont contractualiser, si je puis dire, qu'en septembre 1923, la fraternité Seisbrer, les sept frères, il serait bon, pense-t-il, qu'on commence à sublimer le quotidien des Bretons, fatigués et épuisés par la guerre et la crise économique. C'est-à-dire leur proposer des objets d'art décoratif bretons, modernes et populaires, c'est-à-dire d'accès financier plus facile. Et c'est ainsi que, en septembre 1923, au Pardon du Folgouët, ils se réunissent et envisagent de créer cette fraternité d'artistes pour justement promouvoir des arts appliqués bretons, modernes et populaires.
Alors, je parlais en introduction de bignouserie, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, j'ai pu le lire à droite à gauche, il y en a d'autres comme ça, qualificatifs. Et quand je lis un petit peu votre livre, j'ai senti une espèce de quelque chose qui l'a dérangé vraiment, Jeanne Malivelle, dans ce qui existait à l'avant-guerre. Alors, qu'est-ce qui l'a dérangé vraiment dedans ?
L'art décoratif de Jeanne Malivelle et de ses amis Seisbrer est, comme vous le dites, d'abord un art de rejet.
Oui.
même de détestation de ce qu'était la faïence de l'époque, de ce qu'étaient les mobiliers dont je vous parlais tout à l'heure, à personnages étalés partout, avec des fuseaux en surnombre, avec des galettes circulaires sur les façades de l'éclos et d'armoires à non plus compter. Ils sont conscients que tout ceci, c'est le fruit d'une surenchère décorative qui n'est pas tellement incarnée, qui ne correspond pas tellement non plus à un esprit régional, qui n'a rien de particulier et qui n'est qu'une sorte de compétition, comme par exemple tous ces petits personnages en chapeau et en bragobras, en culotte bouffante, sur les fonds d'assiettes fabriqués aux faïenceries de Quimper. Il déteste tout ça, il l'appelle, comme vous l'avez rappelé, des bignouseries, et cette manière de voir la caricature du personnage breton sur des fonds d'assiettes, sur des meubles, sur des tissus imprimés, sur des papiers peints, et dans des illustrations, les révulse. Et ils se disent, eh bien nous allons contrer ce mouvement-là, ce mauvais goût, par quelque chose de nouveau et de moderne.
Alors vous avez effectivement, parler de 16 breurs, ça veut dire 7 frères. Alors, ils n'étaient pas 7, ça on le sait, ils étaient bien plus nombreux que ça. Pourquoi avoir choisi... Alors, c'est un conte, c'est ça? Alors, pourquoi avoir choisi ce conte comme base de ce mouvement?
Et on le doit, encore une fois, à Jeanne Malivelle, qui, dans la région de Loudéac, collectait régulièrement des contes en langue galaise, dont ce conte des 7 frères, qui pouvait par ailleurs aussi se comprendre comme étant une façon de rejoindre l'idée des sept évêchés, des sept saints de Bretagne. En tout état de cause, ils s'appellent les sept frères, mais dans la version bretonnante, les Seisbrer, en référence à une culture populaire très répandue, qui, notamment autour de Loudéac, est cristallisée autour de ce conte des sept frères.
D'accord. Alors, ils ont conservé tous les domaines où s'exerçait l'art breton, ils sont restés multidisciplinaires, j'imagine. Ils ont gardé le textile, l'art graphique aussi, la céramique. Est-ce qu'ils ont apporté de nouvelles choses?
Ils ont apporté des choses nouvelles, d'abord par les styles et l'esthétique de toutes ces productions que vous venez de rappeler, l'ameublement, la faïence, la ferronnerie. Également, c'est le cas plutôt de Suzanne Candré-Creston dans le domaine de décors de théâtre. À partir de 1927, réaliser plusieurs projets de décors de théâtre pour les Bretons de Paris, et des projets qui étaient d'une innovation tout à fait étonnante, qui ressemblaient au théâtre dada et surréaliste de la même période à Paris.
D'accord. Et la représentation de la foi dans tout ça? Jeanne Malivelle, elle avait quand même une certaine affection pour la foi. Elle était, il me semble, quelqu'un de très religieuse. Et est-ce qu'ils ont continué justement à garder cet aspect-là sur le mobilier ou sur les autres créations?
Jeanne Malivelle était très pieuse, d'une piété sincère, d'origine familiale, qui l'a mis d'ailleurs en contact avec toute une mouvance culturelle bretonne autour de l'église, et en particulier la revue Fraise-Fraise-Braise, pilotée par l'abbé Perrotte, pour lequel elle a d'ailleurs produit des couvertures de la revue Fraise-Fraise-Braise. Jeanne Malivelle est également l'auteur du couvercle de la cuve baptismale du baptistère de Quintin, qui présente en 1921 des lignes inhabituelles, modernes, dans laquelle apparaissent ces décors celtiques dont vous parliez tout à l'heure, et qui étaient restés dans les limbes comme un intérêt un peu théorique de la part des écrivains et des journalistes, mais pas encore vraiment appliqués, comme vont d'ailleurs le faire derrière Jeanne Malivelle ses amis Seisbrer. Mais des gens comme René-Yves Creston ou comme Suzanne Creston n'ont pas de piété particulière. Et c'est peut-être l'occasion d'insister sur cette tolérance des différents membres du groupe Seisbrer, qui ne se veulent ni une académie, ni une école, qui aurait un style imposé par l'école ou par l'académie, mais ce sont des artistes qui acceptent de travailler d'une manière fraternelle, de coopérer d'une manière amicale, chacun son style, y compris quand il y a des différences idéologiques tout à fait certaines entre la piété de Georges Robin, celle de Jeanne Malivelle, et l'athéisme de Suzanne et de René-Yves Cristan.
Alors, vous m'aviez dit hors antenne que Suzanne... Suzanne Creston n'était pas bretonne, qu'elle est arrivée du Berry, hein, c'est ça. Et donc, ils avaient l'air d'accepter facilement les gens qui viennent de l'extérieur, d'accepter facilement d'autres points de vue, d'autres façons de créer les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé par rapport à l'aspect créatif de l'art breton ? Est-ce qu'avant ce mouvement-là, est-ce que l'art breton était quelque chose de matrixé, j'ai envie de dire ?
C'est une bonne question sur laquelle les Sèvres-Brouard n'apportent que des demi-réponses. Pourquoi ? Parce qu'ils détestent l'École nationale des beaux-arts à Paris, ils détestent l'art académique, ils détestent les artistes en vogue dans les années 20 et les années 30, et ils s'interdisent d'en parler, en quelque sorte. Ils se privent d'ailleurs de la possibilité d'en parler, alors qu'à bien des égards, on se rend compte que plusieurs des artistes du mouvement Sèvres-Brouard connaissent parfaitement les avant-gardes de leur époque, connaissent parfaitement les arts décoratifs des grands salons, et en particulier le Salon des arts décoratifs à Paris.
Ah oui, parce que les arts décoratifs, c'est justement, ils sont arrivés dans cette période-là, si je ne me trompe pas, 1910.
C'est ça. C'est la pleine période des arts déco, qui suit la période de l'art nouveau. Et ces artistes Sèvres-Brouard sont dans une situation ambiguë. Ils connaissent les artistes qui travaillent à Paris et qui sont promus par les galeries et par de grandes expositions. Ils connaissent par exemple la grande école d'architecture et de design allemande, le Bauhaus, qui est la référence en matière de modernité dans les arts décoratifs en Europe. Ils l'appliquent, et c'est le cas en particulier des esquisses et des projets de Suzanne Condré-Creston, mais ils ne peuvent pas en parler. C'est une sorte d'interdit idéologique, parce que parler de l'admiration que Suzanne Condré-Creston a pour Sonia et Robert Delaunay, c'est parler de l'art français, et ils ont une telle détestation théorique de l'art français et de l'Académie des Beaux-Arts qu'ils préfèrent ne pas en parler du tout, tout en étant imprégnés sincèrement.
Bah oui, parce que c'est quand même assez étonnant quand on compare ce qu'est, quand on regarde un petit peu ce qu'est l'art déco. On a vraiment l'impression que c'est la même chose. On a vraiment l'impression qu'il y a quand même un espèce de copier-coller, mais alors que pas vraiment, il y a quand même quelque chose qui en ressort. Est-ce qu'on peut dire alors du coup qu'ils ont vraiment copié l'art déco, ou est-ce que c'est un art à part entière, le Sèvres-Brouard ?
L'art des Sèvres-Brouard n'est pas un style unique. C'est plusieurs styles correspondant aux humeurs et aux personnalités de ces différents artistes. Mais comme vous le dites, tout ceci est imprégné par l'esprit art décoratif. Regardez ce que ça donne dans le domaine du mobilier. Des moulurations, des pieds à pans coupés, des formes circulaires, des formes extérieures de meubles dont les angles sont atténués. Les angles droits disparaissent, ce sont des angles atténués par des pans coupés. Ce sont des éléments que l'on retrouve dans la production mobilier des Sèvres-Brouard, notamment celle que Gaston Sébillot à Redon puis Joseph Savina à Tréguier vont réaliser pour le compte de ces artistes, mais c'est également ce que l'on trouve dans le mobilier art déco de la même période. Il y a donc une imprégnation de ces deux styles, l'un régional, qui se revendique comme pouvant porter des décors nouveaux, mais dans des structures qui sont celles des structures des meubles art décoratifs partout en France.
Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant en lisant le livre. On a pu recevoir, comme je vous disais, hors antenne des typographes qui nous ont bien expliqué comment marchait la typographie. Et dans votre livre, ce qui m'avait interpellé directement, c'est la typographie que vous avez utilisée dans l'introduction avec des V, des Y, la base du G qui était très angulaire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve presque partout dans le Sèvres-Brouard, que ce soit donc dans la typographie, que ce soit dans le textile, que ce soit dans le mobilier, cette apparence du triangle. Ce qui est étonnant, c'est que dans l'art déco, on n'utilise pas d'angle droit, c'est quelque chose qu'il fallait supprimer pour passer plus d'arrondi. Ça signifie quoi, le triangle, pour les Sèvres-Brouard ?
Ça peut signifier, dans le domaine du mobilier par exemple, une simple réponse au fait d'abattre les angles. Quand vous voulez faire disparaître un angle droit pour qu'il soit plutôt abattu, avec une ligne en biais, vous créez un triangle. Il y a donc là une forme géométrique résiduelle de la façon de tailler les meubles chez les menuisiers en meubles comme Gaston Sébillo ou Joseph Savina. Le triangle, c'est également un élément qui se retrouve, vous avez raison, dans beaucoup de projets décoratifs des Sèzbreur. Les dents de loup, c'est-à-dire une succession de triangles qui forme l'équivalent d'une mâchoire de loup, qui est un motif traditionnel du costume breton, par exemple, mais qui peut être simplifié, schématisé, sous une forme de ligne de triangle dans certains éléments décoratifs. Et dans le domaine du mobilier, cela s'appelle des crevés. Ce sont des formes de triangles créées en creux à la surface du bois. Pour les Sèzbreur, le triangle devient également une forme de rayonnement solaire. Quand ils assemblent des triangles autour d'une forme circulaire, cela devient en quelque sorte les rayons d'un soleil celtique. C'est-à-dire, il faut le comprendre comme ça parce que c'est une métaphore, une manière pour la culture celtique de rayonner de façon vivante dans les années 20-1930.
Ça rappelle un petit peu le côté agressif de Jeanne Malivelle pour son militantisme. Des mâchoires de loup, c'est quand même pas rien. On sait que ça fait mal si on se fait mordre par un loup. Il y a quand même une certaine forme d'agressivité là-dedans, en disant, regardez, on va pas se laisser faire. Voilà ce qu'on est, voilà où on veut emmener la Bretagne. On peut interpréter ça comme ça, peut-être.
Il y a une forme de fierté et une forme militante. Ça, c'est indiscutable. Dans toute leur pensée, les Sèzbreur véhiculent des valeurs régionalistes, parfois nationalistes, parfois séparatistes. Il n'y a pas d'unité. Le mouvement Sèzbreur n'impose rien sur le plan idéologique. Il est simplement porté par la volonté de promouvoir la langue bretonne et de donner à la culture bretonne une résonance qu'il pense qu'elle n'a pas. Je ne pense pas qu'il y ait une agressivité, même s'il y a une façon de faire qui, chez Jeanne Malivelle, notamment quand elle illustre notre histoire de Bretagne dans les années 20, à la signature de Cécile Dagneau, va ouvertement contester la position de l'État français, la royauté, mais aussi bien la République, dans sa manière de mépriser les régions françaises et en particulier la Bretagne. Il y a une manière également de souligner que l'État français se sert dans la poche des contribuables bretons pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts en retour en région. C'est indiscutable. Il y a une façon chez tous les Sèzbreur de promouvoir une identité régionale forte qui a des valeurs nationalistes qui d'ailleurs leur seront reprochés après la Deuxième Guerre mondiale. Reprochés, il faut le dire aussi, c'est le résultat du travail des historiens aujourd'hui, dans le cadre d'un amalgame regrettable entre défense de la langue bretonne, défense de la culture bretonne et collaboration. Car lorsque les historiens se penchent exactement sur la façon dont le mouvement Sèzbreur, pour ne parler de lui, a réagi pendant la Deuxième Guerre mondiale, en tant que tel, le mouvement n'a pas collaboré. Il y a bien parmi les 37 artistes qui figurent encore parmi les Sèzbreur dans les années de la guerre, 4 ou 5 personnes totalement égarées qui ont collaboré d'une manière consciente et délibérée avec Vichy ou avec les nazis, mais pas le mouvement Sèzbreur en tant que tel, et pas les autres membres. Certains ont été des résistants, comme Gaston Sébillo, d'autres comme Yann Soyer, l'instituteur qui défendait l'enseignement de la langue bretonne dans l'école publique dans les années 30, était quand même plutôt proche du Parti communiste à l'époque. Voilà donc un amalgame d'après-guerre qui a quelquefois amené à considérer que les Sèzbreur, leur défense de la langue bretonne et de la culture régionale, valait collaboration, ce qui n'est pas vérifié par les historiens.
Est-ce que c'est ça qui a causé la perte, on va dire, l'effondrement, qui a fait l'effondrement du Sèzbreur? Ou est-ce que c'est autre chose et ils étaient suffisamment unis et puis intelligents pour faire la part des choses?
Et justement, c'est parce qu'ils n'étaient plus unis qu'en 1947, le mouvement a fini par disparaître. Il a disparu pourquoi ? D'abord parce qu'il avait perdu son ancrage artistique en accueillant des journalistes, des écrivains, des gens de toute spécialité, des musiciens, qui ne partageaient finalement pas beaucoup d'idées sur le caractère esthétique de ce que pouvait devenir l'art décoratif en Bretagne. De plus, cette dispersion des différentes personnalités a condamné le meneur de la fraternité, René-Yves Creston, à une mise en cause concernant une certaine instrumentation du mouvement Seyss-Breur au profit d'un projet de caractère politique qui a été, non pas de collaborer, mais de promouvoir avec les Seyss-Breur un groupe de pression favorable au renouvellement de la culture bretonne en général. Donc, la perte de repères artistiques, la diversité des personnalités qui ont fini par rejoindre le mouvement, l'activisme de René-Yves Creston, ont créé la fin du mouvement Seyss-Breur. Et c'est après la guerre qu'il y a eu un amalgame qui a voulu imprudemment condamner le mouvement Seyss-Breur comme un mouvement de collaborateurs.
Merci beaucoup Pascal Aumasson de nous avoir raconté cette belle histoire. L'émission s'arrête malheureusement maintenant. Alors on rappelle que vous saurez tout sur le mouvement Seyss-Breur en lisant le livre et les livres même de Pascal Aumasson, Seyss-Breur pour un art moderne en Bretagne aux éditions Locus Solus de Châteaulin.